Maintenant, je vais introduire Jérôme Dokich qui s'installe. Et pendant que Francisco fait le travail technique nécessaire avec la virtuosité coutumière du collège, Jérôme Dokich est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et membre de l'Institut Jean Nicot. Ses recherches de philosophe portent sur la perception ordinaire, pathologique, virtuelle, sur l'imagination, sur la mémoire, dans leur dimension cognitive, sociale et ce qu'on appelle perspectivale, c'est-à-dire quel point de vue dans la présentation perceptive et dans la recréation imaginative. Parmi les ouvrages, évidemment, tous nos intervenants ont écrit beaucoup des ouvrages, des articles. Il est plus facile pour moi de citer une sélection d'ouvrages. Je vais citer L'Esprit en mouvement, qui est un livre que j'ai toujours lu avec une admiration sans borne. Ramsey, Truth and Success, avec Pascal Angel, ou Qu'est-ce que la perception ? Ce sont des ouvrages écrits à différents moments de la carrière récente de Jérôme. Je lui donne tout de suite la parole.
Merci, Pierre-Michel. Je vais vous parler de l'obscur objet du sentiment d'achèvement. Donc, je vais rester dans mon rôle, c'est-à-dire essayer de dégager quelques aspects du problème à partir de la philosophie cognitive, c'est-à-dire à partir de la philosophie de l'esprit et de la psychologie cognitive. Je remercie par ailleurs, j'envoie quelques-uns, mes étudiants de mon séminaire de l'HESS, dans lequel j'ai pu tester quelques idées mardi dernier. Le point d'entrée de mon propos est ce que je vais appeler le jugement d'achèvement. Alors, je ne veux pas dire que chaque fois qu'un artiste achève une œuvre, il forme explicitement un tel jugement. Mais pour des raisons méthodologiques, on peut partir des cas dans lesquels il est explicite que l'artiste considère d'une manière ou d'une autre, qu'il déclare l'œuvre terminée, par exemple, mais l'expression linguistique n'est pas nécessaire, il forme un jugement, le jugement que son œuvre, l'œuvre sur laquelle il est en train de travailler, est achevée, finie, terminée, aboutie, comme vous voulez. Pour l'instant, je ne ferai pas de distinction importante entre ces termes. Donc il y a des cas concrets, on peut prendre le jugement d'achèvement comme un donné empirique, si vous voulez. Dans certains cas, au moins, l'artiste forme des jugements d'achèvement. Dans d'autres cas, il forme des jugements d'inachèvement. Et on a, je pense, eu un certain nombre de cas déjà dans l'exposé liminaire, dans également la présentation de Pierre-Michel Menger. Là, j'ai donné quelques exemples. Les demoiselles d'Avignon, apparemment, Picasso considérait que le tableau était inachevé, mais le tableau a été néanmoins exposé. Ça, c'est un manuscrit de la 8e symphonie de Schubert. Et puis, vous reconnaissez Michel Piccoli, qui joue le rôle de Fraunhofer dans le film de Jacques Rivette, adapté de la nouvelle de Balzac, dont Pierre-Michel a parlé aussi ce matin, le chef-d'œuvre inconnu. On peut dire, si vous voulez, que Fraunhofer a un sentiment d'inachèvement permanent, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à achever sa toile maîtresse. Alors, mon plan est relativement simple. L'exposé sera en trois parties, de taille un peu inégale d'ailleurs. Je vais parler du contenu conceptuel du jugement d'achèvement, c'est-à-dire en fait, de quoi parle le jugement d'achèvement, si je puis dire. Quel est le concept d'achèvement que ce jugement mobilise chez l'artiste. Je vais parler ensuite de la source psychologique du jugement d'achèvement, d'où vient-il, comment est-il formé. Et là, je vais faire référence à un modèle influent de la manière dont de nombreux types de jugements intuitifs sont formés. Et enfin, je dirais un mot sur l'ontologie de l'achèvement. J'entends par là simplement l'analyse du fait d'achèvement. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est achevée et quelle est la relation entre le jugement d'achèvement et le fait d'achèvement. Je précise tout de suite qu'en l'espace d'une demi-heure, je ne vais pas pouvoir développer beaucoup de ces aspects, mais j'espère indiquer quelques pistes et aussi indiquer sans doute les limites de l'approche strictement psychologique du problème. J'y reviendrai en conclusion. Je pense qu'une des leçons de... Enfin, je n'avais pas vraiment travaillé sur cette question avant que Pierre-Michel me le demande, et je me suis rendu compte, au fond, que la psychologie et la philosophie de l'esprit ont, à mon avis, des choses importantes à dire, mais qu'il faut identifier à un certain point le passage où le relais est transmis à d'autres disciplines, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire de l'art notamment, et ainsi de suite. Donc, contenu conceptuel du jugement, bon, lorsque l'artiste forme un jugement d'achèvement, il peut simplement dire « c'est fini ». Voilà, c'est fini. Bon, il mobilise tout de même un certain concept d'achèvement. Alors, il s'agit éventuellement d'un concept naïf, comme on dit parfois en psychologie, qui n'est pas tout à fait le même que le concept théorique qu'en tant que théoricien, on a envie de formuler, de définir. Mais il y a un certain concept d'achèvement dont on peut dégager certains traits. C'est ce que je vais faire dans les diapositives suivantes. Donc, je vais faire une sorte de théologie négative, si vous voulez, de l'achèvement, tout à fait incomplète, pour dire d'abord ce que l'achèvement n'est pas. Bon, déjà, l'achèvement d'une œuvre, ce n'est pas seulement le fait de mettre un terme au processus créatif. L'artiste... Il existe de nombreux cas dans lesquels l'artiste décide de mettre un terme au processus créatif, c'est-à-dire d'arrêter de travailler, d'arrêter d'intervenir sur l'œuvre, sans considérer l'œuvre elle-même comme achevée, c'est-à-dire sans former un jugement d'achèvement et éventuellement en formant un jugement d'inachèvement. Donc mettre un terme au processus créatif et mettre un terme et considérer l'œuvre comme achevée sont deux choses différentes. Le jugement d'achèvement, enfin, c'est une remarque purement descriptive, si vous voulez, porte sur l'œuvre elle-même. C'est-à-dire, c'est un jugement que l'artiste porte sur l'œuvre. Et s'il décide de mettre un terme au processus créatif, c'est parce que, dans les cas qui m'intéressent, il a formé le jugement que l'œuvre est achevée. Et pas l'inverse, si vous voulez. Achever une œuvre, ce n'est pas la même chose non plus que la décision de la rendre publique ou de l'endosser. Un artiste peut décider de rendre son œuvre publique, c'est le cas des Demoiselles d'Avignon que j'ai citées au début, ou de l'endosser, c'est-à-dire de se l'approprier comme son œuvre, mais sans la considérer comme achevée. Donc je pense qu'il y a des choses très intéressantes à dire, y compris du point de vue, enfin, notamment du point de vue de la sociologie, sur les conditions dans lesquelles un artiste décide de rendre son œuvre publique, de la divulguer, de la remettre... dans le cadre d'une exposition, et ainsi de suite. Et de même, il peut considérer son œuvre comme achevée, mais ne pas décider de la rendre publique ou de l'endosser. Il peut décider de la garder pour lui, ou de considérer que ça ne lui ressemble pas vraiment, mais tout en formant un jugement d'achèvement. Donc, ça délimite un tout petit peu le concept d'achèvement dont il est question ici. Bon, une œuvre achevée n'est pas non plus forcément artistiquement réussie, même du point de vue de l'artiste. On peut considérer que cette reproduction de la Joconde n'est pas tout à fait réussie, mais après tout, les goûts varient. Mais peut-être que l'artiste a décidé à un certain moment de considérer plutôt que son œuvre était achevée et par conséquent décider de mettre un terme, de mettre la dernière touche à son tableau et de ne plus y intervenir. Alors, une œuvre achevée aussi peut être ouverte au sens de cet ouvrage de Umberto Eco qui s'appelle « L'œuvre ouverte ». Donc, une œuvre peut être considérée comme achevée, même si l'intention de l'artiste est de laisser un certain nombre d'éléments d'indétermination dans son œuvre, de telle façon qu'éventuellement l'œuvre est reprise par d'autres, ou de telle façon que l'artiste... accepte que certaines réalisations spécifiques de l'œuvre soient prises en charge par d'autres artistes. J'ai donné un exemple classique, qui est la pièce 433 de John Cage. On peut considérer, je n'ai pas trouvé vraiment de texte là-dessus, mais je n'ai pas fait non plus une recherche empirique extensive, mais on peut supposer que John Cage, à un certain moment, a considéré son œuvre achevée, mais évidemment, toute l'intention de l'œuvre, c'est qu'elle ait des réalisations spécifiques différentes chaque fois qu'elle est jouée. Vous vous souvenez, c'est cette pièce en trois mouvements qui est entièrement silencieuse, donc elle s'appelle effectivement Tacette. Donc, une œuvre achevée et pas forcément une œuvre fermée, c'est-à-dire entièrement déterminée dans son identité. Le point que je vais soulever là est un petit peu plus complexe, mais je crois qu'on ne peut pas dire non plus que achever une œuvre, c'est simplement s'abstenir d'apporter des changements significatifs à son œuvre. Alors c'est très tentant de considérer au fond qu'une œuvre est achevée chaque fois que l'artiste décide de s'abstenir d'intervenir ultérieurement sur l'œuvre. Il me semble que ça renverse, si vous voulez, l'ordre, le bon ordre de l'explication. Alors, d'une part, cette proposition semble exclure la possibilité de revenir sur un jugement d'achèvement. Il y a ce passage dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac où Fraenhofer observe la toile de Porbus, un autre peintre, considère que cette toile est inachevée, vous vous souviendrez peut-être de ce passage, et magistralement achève en quelques coups de pinceau la toile de Porbus. Bon, on peut considérer que Porbus a, à un certain moment, jugé que son œuvre était achevée, mais éventuellement, en voyant la possibilité d'un achèvement de l'œuvre, en l'occurrence par Fraenhofer, il est possible qu'il ait pu revenir sur son jugement. Mais si, finalement, achever une œuvre, c'est simplement s'abstenir d'intervenir dessus, on perd une dimension, vous allez voir, normative du jugement d'achèvement, puisque le jugement d'achèvement, c'est le jugement, d'après moi, que l'œuvre ne doit pas être modifiée davantage. Donc, dans ce « doit-là », il y a l'indication d'une dimension normative du jugement d'achèvement. Je reviendrai sur ce point aussi en conclusion. Donc le jugement d'achèvement ne semble pas porter sur le fait brut que l'artiste a acquis une telle disposition. Donc une œuvre n'est pas achevée dès lors que l'artiste acquiert cette disposition, qui est une disposition négative, si vous voulez, mais en fait, il acquiert cette disposition parce que il a formé le jugement, et éventuellement pour de bonnes raisons, je reviendrai aussi là-dessus un peu plus tard, le jugement que l'œuvre ne doit pas être modifiée davantage. Donc c'est la conclusion de cette partie, si vous voulez, qui porte sur le concept éventuellement naïf ou la conception éventuellement naïve de l'achèvement qui est en jeu dans les jugements d'achèvement ordinaires, hein, les jugements d'achèvement qu'on peut trouver dans des cas particuliers. La conclusion, c'est que ce jugement a une dimension normative ou évaluative, si vous voulez, hein, donc fait référence à certaines valeurs, à certaines normes, et ça, c'est un trait indispensable du jugement normatif, du jugement d'achèvement. Et effectivement, les mêmes auteurs, enfin, un des auteurs qui parlait de, enfin, qui défendait la thèse d'après laquelle une œuvre est achevée dès lors que l'artiste a acquis une certaine disposition négative de ne plus intervenir sur l'œuvre, reconnaît tout de même que cette disposition doit être fondée sur certaines compétences cognitives, et y compris la compétence qui consiste à reconnaître que l'œuvre n'est pas « good enough », n'est pas suffisamment bonne, hein, c'est bien un jugement évaluatif, et en fait c'est un jugement normatif, elle fait référence à une norme de laquelle éventuellement l'œuvre se rapproche, mais voilà, pas suffisamment, suffisamment, etc. Et c'est cette dimension normative qui est importante. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une dimension esthétique, hein, est-ce que la norme en question est une norme esthétique? On peut laisser éventuellement cette question ouverte pour l'instant, mais j'en dirai un mot aussi tout à l'heure. Alors passons maintenant à l'autre aspect de la question, à savoir la source psychologique du jugement d'achèvement. Hein, d'où vient le jugement d'achèvement? Comment est-il formé? Je vous rappelle que le point de vue qui est le mien ici est celui de la philosophie de l'esprit et de la psychologie cognitive. Donc je m'intéresse à ce qui se passe, si vous voulez, dans la tête d'un artiste lorsqu'il forme un jugement d'achèvement. Alors, la psychologie du raisonnement repose sur une dichotomie fondamentale qui n'est pas tout à fait la même qu'une dichotomie très similaire dans le domaine de l'épistémologie. Il s'agit de la dichotomie entre des jugements qui sont formés à la suite d'une délibération, si vous voulez, d'un raisonnement explicite, et dans ce cas, le jugement se présente comme la conclusion d'un raisonnement, et les cas où le jugement est intuitif, c'est-à-dire repose sur une expérience immédiate qui nourrit le jugement et qui le rend intuitif plutôt que délibératif. Quand je forme un jugement, le jugement qu'il pleut, je peux le former parce que j'ai fait certaines inférences. J'ai vu que les gens rentraient dans la salle avec les habits mouillés, mais je peux aussi évidemment avoir la version intuitive du jugement, c'est-à-dire passer la tête par la fenêtre et constater qu'il pleut. Alors évidemment, le jugement d'achèvement, il peut être délibératif, il peut reposer sur toutes sortes de raisons, et d'ailleurs des bonnes et des mauvaises. Il peut s'agir de raisons purement pratiques, il faut arrêter. Les architectes connaissent le mode de la charrette où finalement on arrête de travailler parce qu'il faut envoyer le projet qui a un deadline et il faut le respecter. Donc éventuellement, ils forment un jugement d'achèvement, pas nécessairement, mais s'ils le forment, ils le forment pour de mauvaises raisons éventuellement, c'est-à-dire pour des raisons purement pratiques ou pragmatiques. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt les cas où l'artiste a comme une sorte d'intuition d'achèvement. C'est-à-dire qu'il a un petit peu le sentiment que l'œuvre est achevée et son jugement n'est pas le fruit d'un raisonnement explicite, mais il est bien le fruit d'une sorte d'intuition. Cette intuition, je vais l'appeler une expérience normative. C'est l'expérience que l'œuvre se rapproche suffisamment. Elle n'est pas seulement good, mais elle est good enough. Elle se rapproche suffisamment d'une norme, d'un standard, d'un idéal, d'un canon, comme vous voulez, pertinent dans le contexte en question. Quelle est la nature de cette expérience normative ? Alors, dans la philosophie, il y a eu quelques tentatives, pas beaucoup, de dégager, d'essayer de définir la notion d'une expérience normative. Je donne ici un exemple qui vient d'un philosophe psychologue qui s'appelle Stefan Vitasek, qui est un membre de l'école de Graz. Pour ceux qui connaissent un petit peu les origines, notamment de la psychologie de la Gestalt, c'était un étudiant, un élève d'Alexius Meinong. Et Vitasek a une théorie esthétique dans laquelle il y a plusieurs catégories esthétiques. Et une des catégories esthétiques qu'il définit, il l'appelle « Wertschönheit », c'est-à-dire une forme de beauté, si vous voulez, qui est liée à la valeur ou à la norme. Alors, il donne l'exemple d'un cheval bien bâti, c'est son exemple, et il dit, la gestalt, c'est-à-dire la forme, si vous voulez, d'un cheval bien bâti présente des qualités esthétiques spécifiques, non comme une gestalt en tant que telle, donc c'est pas juste une gestalt de cheval, c'est ça aussi, mais c'est aussi une gestalt de cheval bien bâti. Donc c'est par rapport à une certaine norme que, au fond, je perçois le cheval. L'expérience d'un cheval bien bâti est donc, dans le sens de l'expression qui m'intéresse ici, est une expérience normative, c'est-à-dire que le sujet a l'impression, le sentiment, que le cheval se rapproche d'une norme pertinente appropriée aux chevaux. Et notez que dans cet exemple, la norme n'est pas esthétique. Être bien bâti n'est pas forcément, on peut discuter de ça, ce n'est pas forcément une norme esthétique. Mais Vitasek considère que l'expérience normative relève d'une expérience esthétique parce que, dit-il, nous prenons plaisir à observer, à percevoir un objet qui se rapproche d'un certain standard. C'est ce qu'il appelle en allemand « normgemäße Gegenstand », un objet standard, un objet qui se rapproche d'un certain standard. Et on prend du plaisir esthétique à repérer que l'objet, effectivement, se rapproche suffisamment d'un certain standard. Dans l'exemple de Vitasek, la norme elle est explicite, c'est-à-dire que le sujet est capable d'identifier la norme par rapport à laquelle il évalue le cheval. Donc il est capable éventuellement de formuler cette norme si on le lui demande. Il a une connaissance explicite de la norme. Mais il y a des cas où la norme peut faire l'objet d'une connaissance seulement implicite. Le sujet n'est pas forcément immédiatement en mesure d'identifier, de rendre explicite, de formuler la norme pertinente, la norme qui est en jeu dans son expérience. Donc il a une expérience normative, mais il n'est pas capable de dire, finalement, de formuler avec précision la norme qui guide son expérience et éventuellement son jugement normatif. Alors il y a des cas pathologiques, plus ou moins pathologiques, qui illustrent, si vous voulez, la possibilité d'une connaissance non explicite de la norme en jeu dans une expérience normative. Ici, je donne un exemple. Il y a une condition qu'on appelle parfois le perfectionnisme sensoriel dans la littérature psychologique. Hein, c'est un cas de trouble obsessionnel compulsif dans lequel le sujet a constamment, peut-être, on est tous un tout petit peu sujet à ce type de conditions, je pense. C'est une condition dans laquelle on a toujours le sentiment que les choses ne sont pas bien disposées, ne sont pas bien ordonnées, éventuellement ne sont pas à leur place, ne sont pas à leur juste place, ne sont pas comme il faut, hein, comme ils devraient être, etc. etc. Et évidemment, cette expérience normative est liée à la motivation d'arranger les choses, hein, d'essayer de faire en sorte que les choses soient éventuellement mieux ordonnées. Hein, par exemple, un sujet dit que, ben, rangeant un livre sur un rayon, ben, il a toujours l'impression que le livre n'a pas l'air tout à fait juste comme il faut. Et donc, il essaye d'arranger les choses, mais il n'y arrive pas toujours. Pierre Janet, d'ailleurs, qui a enseigné dans cette prestigieuse institution, parlait du sens de l'imperfection. C'est bien une expérience normative, en l'occurrence, elle est négative. Hein. C'est l'expérience que quelque chose dévie d'une certaine norme. Par opposition à l'expérience du cheval bien bâti, qui est une expérience normative positive, mais c'est bien une expérience normative dans laquelle la norme n'est pas forcément explicite. Alors, vous me direz, si la norme n'est pas explicite, comment sait-on de quelle norme il s'agit ? Ben, en regardant ce que le sujet est disposé à faire, ce qu'il est motivé à faire, hein, comment il va faire. Dans certains cas, on peut constater qu'en fait, c'est un problème de symétrie, par exemple, donc c'est un problème d'alignement. Hein, donc, il aligne les objets, hein, on peut le constater dans certains cas. Et donc, on sait que la norme implicite, ça va être des normes du type symétrie, alignement, etc., etc. Mais dans d'autres cas, un peu plus pathologiques, il se trouve que le sujet a une expérience normative, mais qu'en réalité, il n'y a pas de norme cohérente qui guide son expérience. C'est-à-dire, il a toujours l'impression que les choses ne vont pas, hein, qu'elles pourraient être améliorées. Il essaye éventuellement de les améliorer, mais il n'est jamais satisfait, il n'est jamais content. Non pas parce qu'en fait, on ne se rapproche jamais de la norme, mais parce qu'on ne sait pas trop de quelle norme il s'agit. En d'autres termes, il est possible, y compris dans le cas particulier que je viens de présenter, que l'expérience normative soit un leurre, c'est-à-dire, en fait, implique une forme d'illusion de normativité. On a l'impression qu'il y a une norme, mais en fait, il n'y en a pas. Et ça, c'est une expérience très importante aussi. Il est très important d'en dégager les contours et éventuellement d'identifier les conditions dans lesquelles elle apparaît. Voilà, donc pour résumer ici cette partie, il y a trois types d'expériences normatives. Hein. Il y a des expériences normatives dans lesquelles il y a véritablement une norme sous-jacente, hein, qui guide l'expérience. Donc c'est le cas du cheval bien bâti et des troubles obsessionnels compulsifs où ce qui est en question, c'est le non-alignement ou l'absence de symétrie, et ainsi de suite. Donc cette norme peut faire l'objet d'une connaissance explicite ou non. Mais il y a aussi les cas que j'appelle illusion de normativité, où effectivement, on est dans un cas de figure un peu différent, puisque on constate que l'expérience ne renvoie pas à une norme cohérente. Alors, c'est une expérience qui est possible précisément parce que la norme peut faire l'objet d'une connaissance implicite. Donc le sujet peut avoir une expérience normative sans savoir. Donc si vous voulez, il y a une part d'obscurité ici dans l'expérience normative, sans savoir vraiment ce qui guide son expérience et éventuellement le jugement intuitif que cette expérience va nourrir. Alors pourquoi je mentionne ce cas ? Parce qu'il est possible. C'est quelque chose qui doit être laissé, une question qui doit être laissée ouverte, qui doit être débattue, que l'expérience d'achèvement, que le jugement d'achèvement, quand il est intuitif, repose sur une illusion de normativité. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une norme qu'on vient d'atteindre, mais qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de disposition cognitive cohérente qui renvoie à une norme bien identifiée. Alors, je parle très, très rapidement ici, parce que le temps avance, d'adéquation cognitive. En fait, la psychologie cognitive n'utilise pas le terme d'expérience normative que j'ai utilisé ici, mais quand on y va y regarder de plus près, et là c'est un programme de recherche qui est très à la mode en ce moment, la psychologie cognitive récente donc, met en évidence un type fondamental d'expérience cognitive. Et peut-être la mère de toutes les expériences normatives. à savoir une expérience liée à ce que les psychologues appellent la fluidité cognitive, c'est-à-dire en gros la facilité ou l'aisance avec laquelle une information est traitée dans le cerveau. Je prends un exemple très très simple. On considère par exemple que le sentiment de familiarité, quand on voit un visage qu'on connaît, il est lié à la fluidité cognitive des processus récognitionnels, c'est-à-dire des processus dans le cerveau, ça part du cortex visuel, il y a une aire qui s'appelle le fusiforme, hein, qui sous-tend la reconnaissance des visages. Bon, il y a des visages qui sont plus faciles à reconnaître que d'autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a des visages qui sont plus familiers que d'autres. Quand je connais bien un visage, mon cerveau est habitué à le traiter, et donc je vais avoir une impression de facilité, de fluidité cognitive. À l'inverse, quand je vois quelqu'un que je n'ai jamais vu, en fait, le cerveau va mettre un tout petit peu plus de temps à traiter l'information, et cette difficulté, relative évidemment, va être perçue au travers d'une expérience subjective, le sentiment d'étrangeté ou le sentiment de non-familiarité. C'est une expérience normative parce que, comme Joël Proust l'a bien montré, elle est liée à une norme très très générale qu'elle appelle adéquation cognitive. C'est la norme qui sous-tend, qui est visée par l'évaluation qu'une tâche cognitive donnée, dans un contexte donné, dans un contexte particulier, sera ou a été objectivement conduite avec succès. Donc, j'ai reconnu la personne, par exemple, ou j'ai effectué le calcul mental, donc j'ai cette impression de fluidité qui est en fait liée à la norme d'adéquation cognitive. C'est-à-dire je suis en capacité, hein, j'ai la maîtrise cognitive de ma tâche, je suis capable de... je l'ai réussi avec succès ou je suis capable de la réussir avec succès. Alors là, je vais aller très vite parce que je n'ai pas le temps, mais la psychologie cognitive a montré en fait que cette expérience fondamentale, hein, l'expérience, si vous voulez, on peut l'appeler l'expérience de la fluidité cognitive, mais tout en gardant à l'esprit que, évidemment, le sujet ordinaire n'a pas en tête le concept théorique, le concept technique de fluidité cognitive, mais il a une expérience de facilité qui va interpréter, c'est ça qui est très important, de différentes manières selon le contexte. Et en fait, la psychologie cognitive a montré que dans certaines conditions très restreintes, on peut soulever beaucoup de problèmes méthodologiques ici, éventuellement dans la discussion, a montré que, par exemple, là je donne juste un exemple, que les jugements de beauté et de vérité, en fait, partagent, ont une origine commune, je parle des jugements intuitifs, ont une origine commune, à savoir la fluidité cognitive, qui est une, si vous voulez, une propriété dynamique des processus cognitifs qui constituent la tâche en question. Bon, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ces travaux, il y en a beaucoup maintenant. Par exemple, nous avons tendance à accorder nos préférences esthétiques aux formes visibles qui sont faciles à traiter par le cerveau. Voilà. Encore une fois, ceteris paribus, hein, ça c'est le philosophe qui rajoute cette clause, elle est très importante parce qu'il s'agit de micro-effets. Hein. Les psychologues, si vous voulez, forcent le sujet à choisir entre ces formes, par exemple, et il se trouve que statistiquement, beaucoup de sujets vont choisir la forme en haut à droite. Et pourquoi ils vont choisir la forme en haut à droite ? Parce qu'elle présente une certaine symétrie que le sujet ne repère pas forcément, ça c'est important, hein, la norme là peut être tout à fait implicite, mais c'est une expérience normative qui est fondée simplement sur la fluidité cognitive. C'est plus facile à traiter, il y a des différences infimes, mais que l'expérience subjective peut traduire par des sentiments de facilité ou des sentiments d'aisance qui ensuite se reflètent dans des jugements intuitifs. Il y a aussi... un effet qui a été beaucoup discuté, qui s'appelle l'effet de simple présentation. Apparemment, quand on présente plusieurs fois la même image, les sujets vont, encore une fois, ceteris paribus, naturellement. Il faut que ça soit une image que le sujet n'a jamais vue avant. Il faut que ça soit une répétition qui n'est pas trop visible, parce que si le sujet constate qu'on lui a présenté la même image plusieurs fois, il ne va pas forcément la préférer davantage. Mais dans des conditions très restreintes, il se trouve que la présentation... répéter d'une même image va renforcer la préférence esthétique du sujet pour l'image. Et on a aussi, il y a tout un programme de recherche, on a aussi essayé de montrer que les jugements intuitifs de vérité étaient sensibles aussi à la fluidité cognitive, au risque de produire des biais importants, hein, des biais cognitifs. Par exemple, on va considérer qu'une phrase est fausse simplement parce qu'elle est mal présentée. Elle est présentée avec des polices différentes ou elle est présentée avec... des couleurs non cohérentes, et à l'inverse, où elle simplement, on éprouve de la difficulté à lire la phrase. À ce moment-là, on fait une erreur, c'est-à-dire qu'on confond la norme d'adéquation cognitive qui concerne la reconnaissance des caractères avec une autre norme, qui est la norme de vérité, hein, qui évidemment concerne la question de savoir si la phrase correspond à un fait. Hein, donc les phrases qui vont être traitées de manière plus fluide, qu'éteris paribus, encore une fois, évidemment, il faut qu'il s'agisse de domaines sur lesquels le sujet n'a pas beaucoup d'expertise, ou a peu d'expertise, ou pas d'expertise. Mais dans certaines conditions contraintes, le sujet va préférer les phrases qui sont mieux présentées. La publicité, évidemment, a intégré cette donnée depuis longtemps. Il y a aussi un effet de présentation répété qui caractérise les jugements de vérité. Si une rumeur se répète, on l'entend plusieurs fois, on va avoir tendance à lui accorder plus de crédit que si on l'entend moins souvent. Donc, si vous voulez, une hypothèse... qui est vraiment une hypothèse, hein, il faudrait regarder ça dans le détail, c'est que le jugement intuitif d'achèvement a lui aussi sa source, au moins en partie, dans la fluidité cognitive. Alors, ce qui est intéressant à propos de cette hypothèse, c'est que elle est en partie testable, hein, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des protocoles pour essayer de tester cette hypothèse que le jugement d'achèvement, certains d'entre eux en tout cas, ont leur source psychologique dans la fluidité cognitive. De ce point de vue, l'expérience normative, si vous voulez, sous-jacente, serait simplement celle où l'artiste est en adéquation cognitive avec son œuvre. Il a entièrement familiarisé son œuvre. Hein. Bon, faudrait dire beaucoup plus sur cette question. Il est en capacité. Et quand il a cette expérience normative, hein, que l'œuvre se rapproche suffisamment d'une certaine norme, qui est en fait une norme d'adéquation cognitive, eh bien, il décide de mettre un terme à son travail. Alors, très rapidement, parce que je crois qu'il me reste 2-3 minutes, je vais dire un mot sur une question très difficile, c'est quelle est la relation entre le jugement d'achèvement et le fait d'achèvement. On peut parfaitement dissocier les deux projets, on peut dire, bon, il y a une psychologie du jugement de l'achèvement et de l'expérience normative qui le sous-tend, hein, donc là on va faire ce que j'ai pas eu le temps de faire ici, mais j'ai indiqué quelques pistes, hein, on va dégager les conditions dans lesquelles le sujet forme un jugement d'achèvement. Et puis, si on fait de l'esthétique analytique ou de la métaphysique des valeurs esthétiques, on va se demander qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est achevée, quel est le rapport entre l'achèvement de l'œuvre et l'identité de l'œuvre, hein, est-ce qu'une œuvre qui est achevée peut être désachevée, par exemple, bon, etc. Donc il y a des considérations de type ontologique, si vous voulez, et c'est toujours très compliqué, comme dans d'autres domaines de la philosophie, de faire le lien entre la psychologie d'un côté et l'ontologie de l'autre. Mais je vais juste indiquer ici très très brièvement trois options possibles. La première option, c'est que le jugement d'achèvement, en fait, constitue le fait d'achèvement. Je vais dire un mot là-dessus très vite. Une deuxième option, qui est l'option que le jugement d'achèvement, en fait, reflète bien le fait d'achèvement. Donc, le jugement d'achèvement, c'est le résultat d'une certaine compétence cognitive du sujet, mais c'est une compétence qui reflète bien les conditions dans lesquelles l'œuvre est effectivement achevée. Et puis, donc, les deux premières options sont des options qui sont, si vous voulez, optimistes d'un point de vue épistémologique, qui considèrent qu'il y a un lien étroit. Alors le lien, il est constitutif dans le premier cas, il est seulement empirique dans l'autre. Il y a un lien entre le jugement d'achèvement et le fait d'achèvement. Et puis il y a une troisième option qui est plus pessimiste, évidemment, qui considère que le jugement d'achèvement est sans rapport avec le fait d'achèvement. Alors très brièvement, il me semble qu'on peut exclure la première option. Il me semble que si on prend au sérieux l'idée que le jugement d'achèvement, et encore une fois, c'est une remarque descriptive, ou phénoménologique, si vous voulez, a une dimension essentiellement normative, on ne peut pas tenir une théorie, par exemple, performative du jugement d'achèvement ou de l'énoncé d'achèvement, une théorie d'après laquelle, finalement, le jugement d'achèvement rend l'œuvre achevée. Hein, c'est parce que l'artiste dit que l'œuvre est achevée que l'œuvre est achevée. D'accord ? Donc, de même, si je dis, si Pierre-Michel dit tout à l'heure, je déclare la séance ouverte, il n'est pas en train de décrire quelque chose qui se passe, il est en train d'ouvrir la séance. On pourrait aussi considérer que l'artiste, en fait, dit quelque chose comme « je déclare l'œuvre achevée » et ça rend l'œuvre achevée. Alors je pense qu'il y a certains éléments de type philosophique qui militent contre cette possibilité. Bon, la deuxième est intéressante, mais évidemment, il faudrait... c'est-à-dire la possibilité que le jugement d'achèvement soit une véritable compétence cognitive, hein, qui reflète un fait d'achèvement. Mais là, effectivement, il faudrait, pour justifier cet optimisme épistémologique, il faudrait en dire beaucoup plus sur la manière dont cette expérience éventuellement est construite par interprétation et d'où vient l'interprétation en question. Et la troisième option, c'est l'option plus pessimiste. Quand on lit la psychologie cognitive, on voit que les psychologues sont très souvent davantage intéressés par les cas où il y a erreur, où il y a biais, hein, où il y a illusion, parce que c'est plus intéressant, ça fait vendre aussi plus de livres et ça fait publier plus d'articles. Mais évidemment, on peut se poser la question si les psychologues n'exagèrent pas aussi notre capacité à nous tromper ou à tomber dans toutes sortes d'illusions. Mais il est possible, hein, et je ne peux pas le montrer en 30 minutes, je ne peux pas le réfuter en 30 minutes, il est possible aussi que le sujet soit victime, comme je l'ai dit, d'une illusion de normativité. C'est-à-dire, au fond, il décide d'arrêter parce qu'il juge que l'œuvre est achevée, mais au fond, il se trompe de norme. Hein, il se trompe de norme, alors soit il n'y en a pas, en fait, soit c'est une norme qui n'a pas grand-chose à voir avec le fait de l'achèvement tel qu'il devrait être éclairé par les philosophes de l'esthétique, ou les sociologues, ou les anthropologues, ou les historiens, etc. Voilà. Donc, ces trois options. Évidemment, je penche plutôt sur la deuxième, mais c'est juste une déclaration ici, je n'ai pas les moyens de la défendre. Donc, en conclusion, c'est ma dernière diapo. Trois conclusions très générales qui correspondent aux trois parties de l'exposé. Hein. Le jugement qu'une œuvre est achevée a une dimension normative essentielle. J'espère que ce n'est pas entièrement trivial. Hein, ça exclut, comme je l'ai dit, une théorie performative de l'achèvement, du jugement d'achèvement. Le jugement d'achèvement peut résulter d'une évaluation intuitive. Hein, c'est pas toujours un raisonnement qui conduit à ce jugement. Comme se rapprochant suffisamment d'une norme spécifique, bon, elle peut être esthétique ou non, ça c'est à discuter. Ça peut être une norme artistique qui n'est pas une norme esthétique. Hein, Jean-Marie Schaeffer nous demande à plusieurs reprises de faire attention à distinguer la question des normes artistiques de la question des normes esthétiques. Elles ne sont pas sans rapport, mais ce n'est pas le même type de normes. Et enfin, la question de savoir si une telle évaluation reflète l'achèvement de l'œuvre dépend de l'existence possible de biais interprétatifs et ou d'illusions de normativité. Donc, à mon avis, c'est là que le philosophe et le psychologue doivent passer le relais éventuellement à d'autres disciplines, puisque la mise en évidence des biais d'interprétation ou de ces illusions normatives, elle ne peut pas se faire sans la prise en considération du contexte plus large, évidemment, dans lequel le sujet forme le jugement d'achèvement. Mais bon, la psychologie a quand même pour tâche de regarder ce qui se passe dans la tête du sujet. Mais parfois, pour regarder ce qui se passe dans la tête du sujet, il faut aussi regarder autour du sujet. Hein, et c'est évidemment ce qu'il faut faire en particulier à propos de la question du jugement et de l'expérience d'achèvement. Pardon, j'étais un peu long. Je vous remercie.